Ça va, merci. Oui, c'est vrai, c'est une situation le plus improbable qu'on aurait pu croire. Bon, effectivement, j'avais mis ma pompe à chaleur en vente. Et puis, j'avais eu quelques personnes qui s'en intéressaient, même des gens qui étaient prêts à venir pour m'aider à la démonter. Puis finalement, les affaires ne se faisaient jamais. Et puis un soir, il y a André qui téléphone à la maison. Puis qui dit, dis donc, Joël, est-ce que tu pourrais me rendre un petit service là? Parce que j'ai besoin d'une pompe à chaleur triphasée de marque Dietrich, et puis il y en a une qui est en vente dans ton village. Est-ce que tu pourrais pas mener une petite enquête pour savoir comment que c'est, quoi? Je lui dis, André, on va pas mener l'enquête, hein, c'est moi qui la vends. Voilà, comme quoi les choses sont guidées par le Seigneur des fois. Ça fait plus de 6 mois que je l'avais mise en vente. Et puis, et chose intéressante, c'est qu'une fois qu'on avait fait affaire ensemble, eh bien, les gens se l'arrachaient, ma pompe à chaleur. Donc, il est arrivé au bon moment. Le Seigneur n'est jamais en avance ni en retard. Il est toujours à l'heure. Alors, il m'a demandé de dire, au départ, c'était comme ça, il me dit, écoute, ça serait bien, Joël, hein, c'est le jour de la trompette, tu viens venir jouer, ouais, pas de problème. Ça serait bien que tu puisses donner un petit peu ton témoignage sur ta vie chrétienne, sur ta vie de musicien. Ouais, bah, je peux faire mon témoignage. Hein. Je fais 3-4 paragraphes, puis c'est bon, quoi. Mais il me dit, ça serait bien quand même si tu pouvais t'inspirer pour en rajouter un petit peu. Alors là, je me suis retrouvé avec le syndrome de la page blanche devant l'écran, et puis... Alors voilà, j'ai choisi de raconter mon témoignage depuis le début jusqu'à maintenant. Donc c'est pas facile, il m'a dit, Joël, t'as 3 quarts d'heure. Hein. 3 quarts d'heure pour résumer 50 ans d'expérience avec le Seigneur, c'est pas facile. Donc il va falloir condenser un petit peu, et puis aller un petit peu plus vite. Alors, ma vie avec le Seigneur, c'est quelque chose quand même qui... Plus les années passent, plus je me rappelle et plus je peux affirmer, même confirmer que quand on fait alliance avec le Seigneur, tout est guidé. Alors des fois c'est vrai, on se dit, oh là là, on passe dans des galères pas possibles, on passe dans des moments de joie exubérante, on passe dans des moments un peu plus tristes, un peu plus compliqués, mais... J'ai appris que, avec les années, bien sûr, toutes les expériences que j'ai pu faire, qu'il ne faut pas s'arrêter au... Comment je pourrais expliquer ça? Il ne faut pas s'arrêter à ce qui nous entoure, à ce qui nous arrive. Il faut garder la paix et toujours remettre nos soucis, nos tracas, nos joies, nos bonheurs dans les mains du Seigneur. Alors, mon témoignage, c'est le témoignage d'un musicien. Le Seigneur l'a voulu comme ça. Mais c'est un témoignage qui peut très bien s'adresser à des gens qui font le ménage, des gens qui font les travaux, des gens qui s'occupent de la sono, des gens qui s'occupent de la vidéo, les gens qui s'occupent du colportage, de tout ce que vous voudrez bien. Voilà. Alors, tout ce que je vais dire, ça n'engage que moi. Je ne voudrais pas que... Enfin, si vous avez des questions, venez me voir à la fin. À la fin, on va en discuter. Alors, au début, est-ce que je fais quelque chose avec des versets, une prédication, etc. Puis, non. Je me suis dit, on va essayer de faire quand même un échange. Un échange entre nous, quoi. Alors, en ce qui concerne le chant et la musique, on va juste commencer un petit paragraphe biblique, et puis après, ça sera mon témoignage. Alors, en ce qui concerne le chant et la musique, il en est fait mention près de 300 fois dans l'Ancien Testament, donc, et sous toutes ses formes. Hein. Le chant, la trompette, comme on a vu, etc. Mais dans le Nouveau Testament, il y a juste 7 mentions de la musique. Alors, qu'est-ce qu'il faut en déduire? Cette sobriété du Nouveau Testament peut être embarrassante pour tous ceux qui donnent une place exagérée à la musique et au chant et qui utilisent ces moyens uniquement pour évangéliser, mais au détriment du témoignage oral. Alors, le témoignage oral, c'est la prédication, c'est le témoignage individuel, c'est le témoignage dans la rue, c'est le témoignage dans notre attitude au travail, au collège, au lycée, etc. Mais il ne faut pas en déduire que la musique et le chant n'ont pas la place dans nos rassemblements. Donc on va faire juste quelques lectures rapides. Allez. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez la possibilité d'afficher les paroles. Donc dans Matthieu 26, 30 et dans Marc 14, 26, on a Jésus qui chante avec ses disciples. On va juste prendre le premier, Matthieu 26. J'aurais dû les écrire, ça aurait été plus vite. Mais ça faisait déjà des choses supplémentaires. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Donc là, ils ont chanté des cantiques. Lesquels? Sous quelle forme? On ne sait pas. Mais voilà, ils chantent avec les disciples. Dans Actes 16, 26, donc... Acte 16, c'est pratique hein, l'électronique. Hein. Alors c'est les apôtres qui sont les fers aux pieds, dans le fond de la prison. Tout à coup il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. En même instant toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alors pourquoi? Parce que le verset d'avant, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Après, donc, on va passer aux Corinthiens. On évolue un petit peu. Ça y est, le Corinthien est parti. Je suis pas trop adepte de tout ça. Informatique, j'en ai fait pendant plus de 40 ans, mais ça m'a jamais... Alors, que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Amen. Après, sans vouloir les lire, on a Éphésiens 5, 19. Entretenez-vous par des psaumes et des cantiques, d'accord? Et après, les Colossiens. Il dit que le chant est lié à la parole de Christ. Et puis dans Jacques, le chant des cantiques, c'est un moyen d'expression et de joie. Alors, je reprends le début. Donc, j'ai entendu la trompette pour la première fois, j'avais 11 ans. Alors, j'étais très impressionné par le jeu et le son de l'instrument. Je ne sais pas pourquoi. Ah, c'était dans l'église, à Rouen. Non, dans l'église, ouais, j'aurais dû le spécifier bien. Il suit, hein. Il dort pas. Hein. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai ressenti en moi un désir profond d'apprendre la trompette, à 11 ans. Alors, il y a des ados là, dans la salle. Il y a des ados. Hein. Il n'est jamais trop tôt. Il n'est jamais trop tôt pour avoir dans son cœur un désir sain et un désir profond. Donc j'ai patienté quelque temps, parce que j'étais trop jeune, pour pouvoir m'inscrire au conservatoire de Rouen. Alors le conservatoire de Rouen, c'est une grande entité. Hein. Et là, ça a commencé ma petite formation. Le Seigneur nous prend dans un point A pour nous emmener à un point B, mais entre les deux, il y a du modelage, il faut couper, il faut tailler, il faut visser, etc. Quoi. Donc là, j'ai appris la rigueur de l'apprentissage de la formation musicale. Pour moi, ça a été... une bonne claque, quand même. À cette époque, alors je ne sais pas comment que ça marche maintenant dans le conservatoire, hein, il était hors de question d'apprendre un instrument sans de sérieuses bases musicales. Il fallait un certain niveau de formation musicale attesté par un examen pour pouvoir accéder à la classe de l'instrument. Il faut être formé pour faire quelque chose, que ce soit dans la vie civile, en famille aussi. Alors là, le Seigneur a commencé déjà à me faire voir qu'il était présent. À cette époque, les revenus de la famille, c'était limite. Et l'achat d'une trompette ne pouvait pas se faire. Mais le conservatoire, il prêtait des instruments hein, pour ceux qui voulaient débuter. Seulement, quand j'ai commencé à prendre la trompette, il y avait une trompette de disponible pour 3 prétendants. Alors qu'est-ce qu'a fait le professeur de trompette? Il a pris 3 allumettes, il en a coupé une, et puis on a pris chacun son allumette. Et ce tirage à la courte paille, certainement guidé par Dieu, m'a permis d'avoir la trompette. Amen. Il faut laisser le Seigneur guider les choses. J'ai pu commencer comme ça à apprendre l'instrument pendant plusieurs années. Et finalement, ma vie chrétienne a commencé à... Je continuais à fréquenter l'Église, bien sûr, avec l'envie quand même de comprendre un petit peu ce que Jésus... C'est, quand on est jeune, hein, Jésus, le salut, le péché... c'est quand même quelque chose d'assez flou et c'est difficile quand même, quand on n'a jamais entendu parler de la parole de Dieu, de comprendre tout de suite. Mais je me suis engagé. Allez, ados, il faut y aller, il faut s'engager. J'ai confirmé mon engagement envers Dieu en prenant le baptême. Alors c'était l'année dernière, c'était en 1967. Et puis là, le pasteur, il a dit, écoute, Joël, maintenant tu es baptisé, tu es engagé, hein, tu joues de la trompette, tu viens jouer de la trompette dans l'église. Alors naturellement, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai découvert la joie de jouer, non pas pour un public, pour quelque chose, mais jouer pour une église et surtout pour le Seigneur. Alors ce qui m'a amené à avoir des réflexions, c'est que le musicien dans l'Église est avant tout un chrétien. Il doit être un chrétien musicien et non un musicien chrétien. Le musicien peut jouer la joie, la solennité, sans le vivre. Les exigences demandées aux chrétiens musiciens sont les mêmes que pour les autres services de l'Église. Ce n'est pas parce qu'on est musicien qu'on a des passe-droits, qu'on peut faire n'importe quoi. Dans l'Église, le musicien est non seulement au service de Dieu, mais au service de l'Église. Il doit donc aider, inspirer, conduire, édifier, susciter, etc. Le chrétien musicien est plus qu'un accompagnateur de cantiques. Il participe à la célébration du culte en participant à l'expression de sentiments vrais et profonds par le jeu sincère et habile de son instrument. Alors c'est vrai que moi, je joue de la trompette, et puis c'est pas un instrument, comme on pourrait dire, qui fait pas de bruit, qu'on n'entend pas. En général, la trompette, c'est pour y aller, quoi. Hein. Ah, les cuivres. Mais il faut penser que travailler son instrument, c'est pour le Seigneur, donc il faut avoir des qualités techniques, de façon à ne pas couvrir avec ma trompette tout le restant de l'orchestre, si vous voulez, quoi. Mais j'ai dû arrêter quand même, au fur et à mesure des années, j'ai dû arrêter cette formation musicale de trompette. Donc la trompette est restée un petit peu dans la boîte. Mais le Seigneur avait un plan pour moi et puis il voulait tester ma patience. C'est vrai que quand j'étais jeune, j'étais un petit peu fougueux, un petit peu pressé de finir, pressé d'y aller, etc. Et là, la trompette, non, fini. Fini la trompette. Et puis, donc les années ont passé, je vais quand même assez vite. Hein. Lors d'une sortie de jeunesse à Paris, à la sortie de jeunesse, je m'en souviendrai toujours, il y avait 3/4. 3/4 de l'église, tous les jeunes, donc 3/4, ça fait à peu près 120, 130 jeunes à peu près. Hein. J'ai remarqué un trompettiste dans l'équipe instrumentale. Et puis là, ça m'a titillé un petit peu, quoi. Alors, je lui ai demandé d'essayer son instrument. Alors, donc, de mémoire, j'ai pu jouer quelques chœurs de jeunesse, quelques petits chœurs, des cantiques, tout ça. Mais il y avait le responsable de l'église de Rouen qui était là. Puis il l'a entendu. Et il n'était pas sourd. Hein. Alors, de retour à Rouen, Joël, viens voir. Ça serait bien si tu pouvais rejouer de la trompette. Ah, mais j'en ai plus. J'ai plus de trompette. J'en avais une, puis j'étais obligé de la rendre au conservatoire, parce que vu que j'avais arrêté, ben, du coup, c'est pas grave. Hein. Moi, je t'en prête une. Voilà. Il faut jamais dire non. Alors, les choses sont conduites. Puis, peu de temps après, il y a un jeune de l'église qui vient me voir, puis il lui dit, Joël, j'ai une trompette, je m'en sers plus. Est-ce que tu la voudrais ? Ben oui, oui, parce qu'au moins, ça serait la mienne. Parce que celle que le frère m'avait prêtée, bon, c'était pas... En plus, pour les musiciens, c'était pas une trompette en do, c'était une trompette en si bémol. Donc pour jouer, il fallait que je transpose. Et puis là, il fallait que je fasse appel à mes ressources musicales de longtemps. Donc ça m'arrangeait bien qu'un frère me puisse me donner une trompette. Alors c'est une trompette qui n'était pas en très bon état. Je me souviens... des fois, avant d'aller au culte, il fallait que je regarde s'il n'y avait pas une soudure qui avait lâché, tout ça. Donc j'avais mis des ficelles, j'avais ressoudé, j'avais mis du d'autocollant, tout ça. J'avais mis plein de choses, quoi. Mais j'avais ma trompette, et de nouveau, j'étais heureux, je pouvais servir avec mon instrument dans l'église. Et puis, les choses sont encore plus conduites. Il y a une sœur de l'église, alors je ne sais pas comment elle va faire. Elle a remarqué la vétusté de mon engin. Elle a bien vu que c'était pas normal, les bouts de ficelle, etc. Alors, elle vient me voir, elle me dit, voilà, Joël, je t'emmène en ville. Bon, d'accord. Donc elle m'emmène en ville, et puis elle m'emmène dans un magasin de trompettes, et puis elle me dit, voilà, je voudrais savoir qu'est-ce qui te ferait plaisir comme trompette. Alors donc, le vendeur, il sort plusieurs trompettes, et puis, bien intelligemment, il n'a pas dit le prix. Donc j'essaye la première, la deuxième, la troisième, etc. Puis je dis, ah, c'est celle-là, ça serait pas mal, ça. Écoute, Joël, je te l'offre. Donc deuxième signe, deuxième, troisième, quatrième signe, que quoi, quand on donne sa vie à Dieu, quand on se met au service de Dieu, il y a des choses merveilleuses qui se passent. Alors, j'ai pu ainsi participer, en plus, pendant quelques années, au service de la musique. Et puis là, je me suis aperçu quand même, bon, là, j'étais quand même un peu plus vieux, hein. J'avais 19 ans. Je me suis dit, je vous livre un petit peu mon ressenti, qu'il faut jouer avec habilité d'un instrument pour le Seigneur en s'affranchissant de la technique pour laisser son cœur s'exprimer. La compétence technique n'est pas obligatoirement gage d'un bon service. Inversement, un bon service ne peut pas être associé à un jeu approximatif. Quand on fait quelque chose pour le Seigneur, il faut essayer de le faire au mieux, en oubliant effectivement parfois la technique. Donc les années ont passé, et puis le Seigneur il a décidé de m'emmener encore un petit peu plus loin. Donc le responsable de l'équipe instrumentale du groupe de jeunesse, celui qui m'avait engagé, il a quitté son poste pour des raisons qui l'incombaient. Et puis le pasteur m'a dit, écoute Joël, tu prends ta place. Non, si. Bon, d'accord. Il ne faut jamais dire non, Seigneur. J'ai occupé cette responsabilité pendant une dizaine d'années. La responsabilité du groupe instrumental, du groupe de jeunesse. Donc on répétait tous les mercredis soirs. Et puis donc le dimanche, un dimanche sur deux, la jeunesse dans l'église chantait un chant, un cantique animé par le chant La Réunion. Et donc il fallait aussi quelques musiciens. Et donc... il fallait de la musique. Et puis le Seigneur m'avait dit, écoute, tu t'occupes maintenant de la musique du groupe de jeunesse. Donc certains sont de très bons musiciens, hein, mais parfois pas très engagés envers le service. D'autres sont fidèles au service, mais ne sont pas forcément de bons musiciens. Quelle doit être la priorité ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Lui, il joue pas juste, hein. Et puis, en plus, il n'est jamais en mesure. Alors, on ne prend pas. Il y a des musiciens qui sont très enthousiastes, mais avec des habiletés limitées. Et c'est bien de les emmener un petit peu plus loin, en leur confiant des choses à leur hauteur, en essayant de les intégrer tout doucement, en les complimentant, en les encourageant. Je me souviens, quand j'écrivais des partitions, on avait quelques musiciens dans le groupe de jeunesse qui n'étaient pas, comme je viens de le citer, qui n'étaient pas d'un niveau exceptionnel, mais qui jouaient de tout leur cœur, etc. Donc, pour eux, je réécrivais les partitions un peu plus simples, un peu plus abordables, de façon qu'ils puissent s'épanouir et puis ne se sentent pas surtout rejetés. Il faut avoir un esprit de rassemblement, un esprit d'unité. C'est bien de dire, écoute, viens, tu viens avec le don que tu as, et puis je suis persuadé que ce don-là va se développer, va s'améliorer, va faire des progrès. Alors dans l'Église aussi, il y a les traditions. 1950, les ailes de la foi. Puis après, il y a eu les chœurs et cantiques. Puis après, on a eu Gem. Après, on a eu dans la présence du Seigneur. Et puis, maintenant, on a YouTube. Alors, si la tradition est en question, c'est bien de réfléchir comment améliorer les choses. Dans l'Église, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des encore moins jeunes, et puis il y a des tout jeunes. Donc, il faut essayer d'équilibrer, non pas forcément faire plaisir à tout le monde, mais apporter à chacun la possibilité de chanter, de louer le Seigneur au travers du chant et de la musique. Il faut comprendre quand même qu'en ce moment, il y a des chants qui ne sont pas forcément abordables à chanter par tout le monde. Attention. Et puis, ça n'engage que moi. Il y a des chants qui sont faits uniquement pour un chanteur, pour un groupe. Mais chanter ça dans l'Église... Bonjour, c'est pas facile. Alors, une famille unie est celle qui résiste aux conflits de génération. Quand on est jeune, il faut pas dire « Ouais, mais moi, je chante ça, et puis les autres, ils ont qu'à y aller. » Mais non, c'est pas ça. Malgré toutes nos différences, nous sommes en Christ un seul corps. Il faut que la musique dans l'Église soit familiale, regroupant toutes les tendances, en un consensus général basé sur la tolérance, le respect de l'autre, et l'amour de son prochain. Alors, me voilà donc, à la tête de l'équipe instrumentale, de la jeunesse. Et puis, le Seigneur m'a dit, écoute, on va changer de direction. Alors, un besoin s'est révélé dans l'Église, à la recherche d'un chef de chœur. Et puis, le pasteur, il m'a dit, écoute, Joël... Il faut que tu prennes la place. Alors attention, s'occuper de la musique, d'accord, mais chef de chœur, si, je suis sûr que tu vas pouvoir le faire. Alors, non préparé à cette nouvelle aventure, c'est avec foi et en comptant sur l'aide de Dieu que j'acceptais la mission. Donc encore, pendant une dizaine d'années, j'ai eu la joie de diriger une quarantaine de choristes. C'était magnifique. Alors au début, ça n'a pas été facile, parce que quand on est chef de chœur, il faut avoir quatre oreilles. L'oreille pour les basses, l'oreille pour les ténors, l'oreille pour les altos, l'oreille pour les sopranes, et puis on n'en a que deux. Donc au début, ce n'était pas facile. Donc je choisissais des chants relativement simples au début. Et puis après, le Seigneur nous aidant, on a pu faire de belles choses. Et puis, des fois, je me souviens encore, à une fête de Noël, devant, j'avais mes 40 choristes, puis derrière, il y avait 80 jeunes, puis derrière, il y avait une soixantaine d'enfants du GIB. Du GIB, vous savez ce que c'est que le GIB ? Groupe d'instructeurs bibliques, les écoles du dimanche, quoi. Ils ont changé de nom. Et là, on est transporté, on est plus sur Terre, on est quasiment presque là-haut, on est entre les deux, quoi. Pour chanter ces chants, voir tout ce groupe de personnes chanter, et puis l'Église derrière, eh ben, qui raccroche, quoi. Et c'est ça, finalement, qu'il faut chercher quand on fait quelque chose dans l'Église, que ce soit au niveau de la musique, au niveau du chant. Et puis annoncer l'Évangile par le chant, c'est une expérience magnifique et très enrichissante. Hein. Donc ce qu'on vient à dire, c'est que chaque Église doit regarder à ses propres ressources, développer, utiliser les personnes de talent que Dieu a donné. La pire tendance est de mettre en avant l'accent sur les personnes les plus expérimentées qui ont servi pendant des années en délaissant les nouveaux. C'est dans les rangs de l'Église que l'on peut trouver des musiciens, des choristes, des frères et sœurs capables et enseignables. Batteurs, bassistes, claviéristes, cuivres, bois, cordes, etc. sont tous là pour être utilisés. Choristes, ménages, sonos, vidéos, colportage, etc., etc. Puis s'il y a un défaut, on demande à Dieu. Et il vous en donnera. Alors, là, passage à vide. Un état médical m'a amené à arrêter cette responsabilité. Je ne pouvais plus assumer. Mais je continuais à participer avec ma trompette à la vie musicale de l'Église. Donc ça a été un moment assez douloureux, bon, qui s'est terminé par une opération. Et effectivement, je ne pouvais plus rester debout, je pouvais plus. Enfin, c'était la galère complète, quoi. J'étais arrêté pendant pratiquement 4-5 mois. Donc le Seigneur m'a mis un petit peu en veille. Et mais il y a toujours un plan. On a confié sa vie jeune au Seigneur, puis qu'on dit « voilà, je te donne ma vie, je t'accepte comme mon sauveur ». Jésus est notre sauveur aussi, mais c'est lui qui nous emmène là où il a prévu de nous emmener, de façon à ce que nous puissions nous épanouir dans le service pour Dieu et que nous puissions aussi travailler pour lui. C'est bien de se convertir, de donner sa vie à Dieu, mais pour mon compte personnel, si on vient occuper une chaise, c'est bien, plutôt que de retourner dans ce qu'on a vécu avant, mais ce n'est pas suffisant pour le Seigneur. On est sur sa chaise, mais il faut aussi se lever, comme disait le frère tout à l'heure, il faut se lever. Donc le service m'a rapidement rattrapé. Et alors là, je suis passé d'un petit cran au-dessus, quoi. Donc le pasteur m'a dit, écoute... Maintenant, tu vas prendre en responsabilité l'équipe instrumentale de l'Église. Parce que c'est vrai qu'il y avait au début, il y avait l'équipe instrumentale du groupe de jeunesse, où on avait un piano, quelques instruments. Mais dans l'Église, bien sûr, c'était plus étoffé. Et puis alors là, je me suis retrouvé avec 26 musiciens potentiels. Donc il y avait piano, violon, flûte, clarinette, saxophone, trompette, guitare, basse, batterie. Et nous pouvions animer et conduire l'église dans le chant. Alors là, ça a été quand même un cran au-dessus, avec une bonne formation musicale de basse, ça ne suffit pas. C'est pas parce qu'on est musicien, entre guillemets, qu'on est bon chef d'orchestre. Donc il a fallu quand même que je potasse, que j'essaye de voir un petit peu comment un chef d'orchestre travaillait, regarder des vidéos, essayer de comprendre un petit peu, parce que c'est facile de faire 3-4, et puis... mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça suffit pas. Alors, puis c'est pendant cette période que là, de nouveau, encore une fois, ma foi a été mise à rude épreuve. Alors, on en avait parlé avec Michel et puis André. Il y a un chirurgien dentiste qui s'est complètement planté quand il m'a changé mon bridge, parce que j'ai pas un bridge, mais décidément. Donc il m'a fallu recommencer à zéro l'apprentissage de l'instrument. Pour vous dire, il fallait changer mon bridge, donc je change mon bridge, tout ça. Et puis j'arrivais à la maison, par curiosité, je prends la trompette, puis ça voulait pas. Donc là. J'étais prêt à tout abandonner, non pas la direction de l'orchestre de l'église, mais à abandonner l'instrument. Puis je me suis dit, après tout, comme mon épouse faisait de la flûte, ben, je vais apprendre la flûte. Puis je me suis dit non, non, c'est pas. Si le Seigneur a permis une première fois que tu puisses avoir une trompette au tirage au sort, qu'un frère te donne une trompette, qu'une sœur te paye une trompette, c'est pas pour la laisser dans la boîte. Donc, il a fallu que je me remette sur l'établi et puis que je recommence à forger un petit peu mon apprentissage. Donc, petit à petit, j'ai commencé à reprendre, à retravailler un petit peu comme cours préparatoire, cours élémentaire, etc. Et puis, en ce qui concerne ma responsabilité du groupe instrumental de l'Église, bah, c'est le Covid qui a mis fin à tout ça. Et puis, le pasteur du moment a voulu avoir une nouvelle orientation de la musique dans l'Église, etc. Parce qu'effectivement, on est arrivé à passer les moments de culte sur YouTube. Au début, c'était pour, vu qu'il n'y avait plus de réunion, donc il fallait bien faire quelque chose. Bon, puis il était hors de question d'avoir 20 musiciens, etc. Donc le groupe s'est bien rétréci. Et puis, disons que la nouvelle orientation, c'était, bon, maintenant, c'est plus la peine d'avoir tant de musiciens. On fait, pas le minimum, mais on fait un petit peu comme on voit sur les vidéos sur Internet. Alors, on a continué avec mon épouse à participer au chant de l'Église quand c'était notre tour. Et pour terminer, c'est que mon sentiment sur comment vivre un service dans l'Église, c'est pas facile à, comment je pourrais dire, nous humains, à dire tiens, si on est appelé ou si on a le désir ou si les circonstances nous amènent à faire un service dans l'Église. Est-ce que bon, d'abord il faut dire oui, il faut être consentant, il faut être partant. Il faut dire, bon, ok, d'accord, je me sens appelé comme ça, enfin appelé, j'ai le désir de faire ça. Le pasteur m'a dit, tiens, t'es électricien, il y a une lampe à changer là, écoute, tiens, tu sais bien faire ça, ça serait bien parce qu'on a un petit besoin. Écoute, j'ai vu là, tu travailles un petit peu la sono, là, on a besoin de quelqu'un. Écoute, t'es habile en informatique, ça serait bien si tu pouvais t'occuper de l'ordinateur de l'église, etc. Donc que ce soit quelqu'un qui vient nous voir, il faut être attentif. Il faut être attentif quand on est sollicité en tant que chrétien. S'il y a une sollicitation, c'est pas comme ça, que ça arrive, ça tombe du ciel. Comme moi, mon expérience avec la musique, la trompette, le guide des chœurs. À chaque fois que les circonstances arrivent, il faut se poser la question. Je me trouve dans telle situation, si on est chrétien, bien sûr. Est-ce que c'est voulu par le Seigneur? Est-ce que c'est humain? Est-ce que c'est pas humain? Ben, y a une solution. C'est prier. Pour moi, la prière a toujours été le point de départ. Pour rechercher la volonté du Père, recevoir sa bénédiction. Pour garder notre propre volonté en accord avec celle du Père. Utiliser les arts dans un ministère d'église peut souvent amener la controverse et la critique. Donc il faut faire attention aussi à ce qu'on fait, mais à ce qu'on subit, et ne pas le prendre pour des remontrances, pour des choses négatives. Il faut aussi se soumettre. Ça, j'ai appris à me soumettre. Obéir à des gens et à non à des règles. Parce que c'est facile d'écrire des règles. On les exécute, on ne les exécute pas. Il faut voir si le respect de ceux qui les ont écrites. Respecter l'autorité de la personne, même si des fois on n'est pas d'accord avec elle. Il m'a demandé d'aller passer la tondeuse dehors et puis il pleut. On n'est pas d'accord. Mais s'il l'a demandé, c'est qu'il y a peut-être une raison. Bon, ça c'est un petit aparté. Et puis aussi, il faut un responsable. Quel que soit le service qu'on a dans l'Église, il faut toujours quelqu'un qui soit là pour planifier, pour rassembler, pour guider. Conseil auprès de l'autorité. Alors, cette personne-là, bien sûr, il doit avoir la vision du ministère et les autres, les aider à avoir cette même vision. Et puis aussi, il faut de la pratique. Il faut du travail personnel. Alors, pour la musique, il faut répéter chez soi, il faut travailler son instrument. Pour l'informaticien, il faut se tenir au courant des dernières versions, etc., etc. Et puis aussi, il faut de l'organisation. Il ne faut pas s'éparpiller. Quand on a une chose à faire, on la fait, et puis on essaye de ne pas aller se perdre dans des méandres d'autres choses. Il faut de la ponctualité. Quand on dit, tiens, répétition demain matin à 7h. Oh, 7h. Si le responsable, il a dit c'était 7h, c'est qu'il a ses raisons, certainement. Et puis, il faut aussi de l'assistance. Il faut s'assister les uns les autres. Être attentif à son voisin chrétien, sa voisine chrétienne, l'enfant chrétien, l'ado non chrétien. Il faut les assister, il faut les emmener, il faut les... Et puis, la chose aussi qui peut être importante, que je mettrai après la prière, il faut un engagement. Il faut s'engager. Il faut prendre la décision de faire, la décision d'aller, la décision de parler, la décision de... Voilà. Il faut s'engager. Et puis, je terminerai. Développons notre service en paix sous le regard de Dieu et de nos frères. Et cela sans vouloir aller plus vite que la musique. Et cette musique, c'est la partition qu'a écrit le Seigneur. Voilà. Rapidement résumé. Allez. Je vais dire 55 ans de vivre avec d'engagement avec le Seigneur. Et quand je fais le bilan, mais j'ai l'impression d'avoir écrit la vie de quelqu'un pour un service d'obsèque. Le bilan, il n'est pas terminé, parce que on a encore quelques années devant nous, quand même, si le Seigneur ne tarde à venir. Mais ce que je peux dire et affirmer, c'est que quand on s'engage avec le Seigneur sincèrement et qu'on se met à son service, c'est lui qui fait tout. Nous, nous ne sommes que des petits moyens et des petits leviers pour que le témoignage de Christ puisse être répandu. Amen. Amen. Donc, les enfants, les ados, si jamais vous entendez l'appel, faut passer le pas. Faut passer le pas. Le monde est là, avec tous ses attraits, toutes ses joies, tout ce qui peut saturer l'esprit des gens. C'est pas, au départ, c'est très bien, c'est brillant. Et puis finalement, on se rend compte. Moi, personnellement, j'ai remarqué très rapidement que finalement, ça passait. C'est une fumée qui passe et puis qui est soufflée par le vent. C'est des instants peut-être agréables, joyeux, tout ça, mais ça laisse toujours une amertume dans le cœur. Donc, faut faire le pas. Et là, vous allez voir. Le Seigneur, quand il vous emmène d'un point A à un point B, c'est... Moi, mon point B, je ne l'ai pas encore. Je sais pas encore où il est. Mais toute cette vie, je peux dire, ouais, toutes ces décennies passées à son service, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est tout ce qu'il y a de plus beau qui a pu m'arriver. Amen.
Alors, je ne savais pas du tout ce qu'il allait dire, enfin... On connaît un peu son histoire, mais qu'il allait résumer un peu sa vie, je ne savais pas. Et je pense que le Seigneur m'a conduit à prendre ce morceau du Messie de Wendel, qui montre un chef de cœur, quoi, qu'il était, et que ça donne avec la trompette. Et qui, dans ce Messie, qui a écrit il y a des années, voilà, le message, c'est « Puissant et roi du ciel, règne, alléluia, toujours il règnera ». Triomphe, honneur et gloire au Christ, le roi des rois, il régnera à jamais, seul vrai Dieu et roi des rois. Alléluia. ceux qui ne comprennent pas l'anglais, nous serons changés en un instant. Voilà, nous